Les mots n'ont pas tous le même poids. Certains sont légers, d'autres graves. La parole n'est pas neutre, elle n'est pas insignifiante. Elle peut attaquer, condamner. Elle peut semer la haine ou la mort.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
On pense au fameux proverbe « Tourne sept fois la langue dans ta bouche avant de parler ». Il souligne l'importance de la parole et qu'elle doit être maîtrisée, contrôlée, si l'on ne veut pas qu'elle produise des dégâts inattendus. Déjà dans la Bible, le psalmiste, s'adressant à Dieu, lui dit « Établis une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. » Car il craint sans doute que ses paroles ne dépassent sa pensée, qu'elles produisent du mal et finissent peut-être par se retourner contre lui. Il semble qu'aujourd'hui, beaucoup de mots se soient banalisés. Ils sont utilisés à tort et à travers, parfois de manière exagérée, voire outrancière. De fait, actuellement, dans le flux ininterrompu de paroles, de discours, de déclarations, de promesses, il est devenu nécessaire pour être entendu, ou en tout cas avoir une chance d'être entendu, de forcer le langage et d'utiliser des termes forts qui se révèlent parfois totalement inappropriés. Alors cette semaine, nous allons essayer de nous appliquer à éclaircir certains mots qui sont souvent utilisés et qui, d'une certaine manière, infestent notre langage. Oui, normalement, c'est la pensée qui dicte le langage. Eh bien, aujourd'hui, parfois, il me semble que, dans bien des cas, c'est le langage qui dicte la pensée. Le langage persuasif. Le langage qui va s'imprimer en nous et nous mener peut-être sur des chemins que nous ne voulions pas prendre. Je voudrais que nous y voyions un peu plus clair en ce qui concerne le mot « populisme ». Aujourd'hui, il semble bien que ce mot serve à dénigrer, car il y a, dans l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, une notion négative, voire presque une insulte, que l'on utilise beaucoup pour caractériser certains mouvements politiques de droite, tels que celui de Madame Meloni en Italie, celui de Monsieur Orban en Hongrie, ou encore chez nous, pour désigner des mouvements tels que le Rassemblement national. Référons-nous tout d'abord à la définition. Le mot « populisme » désigne toute approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques, médiatiques ou intellectuelles en se réclamant du premier. À lire cette définition que l'on trouve dans le dictionnaire, on pourrait dire alors que, par exemple, la Révolution française était un mouvement populiste. Et que dire de la Révolution russe et du communisme ? Ce mot populisme dérive du mot populiste auquel le Larousse illustré donnait le sens de membre d'un parti prônant des thèses de type socialiste. Autrement dit, aujourd'hui utilisé pour dénigrer certains mouvements de droite, le mot populiste, en réalité, désignait des mouvements politiques apparus à la fin du 19e, mouvements que nous pourrions appeler de gauche. Aujourd'hui, vous voyez comment le sens a été totalement dérivé. Il est devenu une insulte facile qui, en jetant la suspicion sur certains mouvements, permet au final de ne pas aborder les vrais problèmes de nos sociétés. Catherine Colliot-Hélène, philosophe française, écrit « Qualifier un mouvement politique de populiste est un obstacle à une analyse sérieuse des transformations de la politique. » Il en est un autre qui également connaît un certain succès, c'est le mot « réactionnaire ». Il est utilisé souvent dans un contexte polémique pour désigner de manière péjorative une personne ou un parti, un mouvement qui s'oppose à certains changements de la société. Par exemple, dans les régimes communistes, c'était une insulte adressée aux dissidents et aux démocraties libérales occidentales. En politique, un réactionnaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui prône un retour à un état antérieur de la société. Car, selon lui, la société change et produit de mauvais changements. Est-ce que tous les changements de la société sont toujours bons, vont toujours dans le bon sens ? Est-ce que tous les changements de la société sont véritablement des progrès ? Or, si l'on estime que dans tel ou tel domaine, nous ne faisons pas un progrès, mais au contraire, nous sommes en train de disqualifier nos propres valeurs, alors il peut être bon et nécessaire, quelque part, d'être réactionnaire. Bien que traditionnellement associé au gouvernement de droite, des éléments de politique réactionnaire étaient également présents dans des gouvernements de gauche, comme par exemple lorsque Staline a mis en œuvre des politiques sociales conservatrices telles que la recriminalisation de l'homosexualité. Le terme donc de réactionnaire est ambigu, il évolue selon les temps et les situations. En fait, personne ne peut être taxé de réactionnaire permanent. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du mot génocide. Voilà un mot qui est utilisé de manière ambiguë et nous voyons bien qu'il n'a pas le même sens pour ceux qui l'emploient. Le terme juridique génocide désigne certains actes commis dans l'intention d'anéantir en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le mot génocide n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale. C'est en assemblant la racine « géno » du terme grec désignant une race ou une tribu et « cide » du terme latin désignant l'action de tuer, que fut créé ce mot « génocide ». On comprend bien, après cette étymologie, que le génocide, c'est un plan d'extermination totale d'un peuple ou d'un groupe ethnique. Alors aujourd'hui, le mot revient pour qualifier ce qui se passe dans la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Avant d'utiliser ce terme, il nous faut, je pense, poser certaines questions. Israël a-t-il eu l'intention d'exterminer les Palestiniens de la bande de Gaza ? Si oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Car le Hamas décompte environ 65 000 morts dans ce conflit pour une population de plus de 2 millions d'habitants. Israël avait certes en main les éléments nécessaires pour anéantir beaucoup plus de Gazaouis qu'il ne l'a fait. D'autre part, si la volonté d'Israël était d'exterminer totalement le peuple palestinien, pourquoi ne s'est-il pas attaqué aux Palestiniens qui vivent sur le territoire d'Israël ? Je ne parle pas des territoires palestiniens, la Cisjordanie ou Gaza, mais sur le territoire même d'Israël, il y a aujourd'hui 1 700 000 Palestiniens qui vivent sur le territoire même d'Israël. À ma connaissance, ceux-ci n'ont pas été inquiétés de manière particulière. Et donc, si l'on veut être rigoureux, on peut parler d'un génocide à propos du Hamas. Israël l'a dit clairement, son but est d'anéantir tous les membres qui appartiennent à ce groupe. Mais on ne peut pas, je l'espère, confondre le Hamas avec les Palestiniens qui habitent à Gaza. Il faut donc être très prudent dans l'utilisation de ce terme et ne pas l'appliquer d'une manière inadaptée à tout type de conflits humains. Penchons-nous maintenant sur le mot « démocratie » que l'on entend répéter tant et tant de fois par jour. Qu'est-ce que la démocratie ? Alors, référons-nous à une définition qui est attribuée à Abraham Lincoln, président des États-Unis. La démocratie, a-t-il dit, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est un mode de gouvernement qui dépend de la volonté du peuple. Correctement appréhendée, la démocratie ne devrait même pas se définir par la règle de la majorité, en vertu de laquelle les intérêts des minorités pourraient complètement être ignorés. Cela me fait penser à cette phrase de Camus, « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais c'est la protection de la minorité. » La démocratie, du moins en théorie, c'est le gouvernement au nom de l'ensemble du peuple, conformément à sa volonté. Ce sont des représentants choisis par le peuple qui doivent mettre en œuvre la volonté du peuple. La difficulté va donc être de déterminer, de comprendre réellement la volonté du peuple. Or, nous voyons que bien souvent, les hommes politiques plaquent au contraire sur le peuple leurs propres idées et leurs propres volontés, en estimant que le peuple pense de cette manière. Cette délégation n'existait pas au temps des Grecs, créateurs de la toute première démocratie. Pour nous, il est important de retenir que pour évaluer dans quelle mesure un pays est démocratique, c'est le respect de la volonté du peuple, plutôt que les structures institutionnelles ou électorales en place, qui est réellement significative.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.